François Hellebron, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Vous êtes professeur associé à Sciences Po et ce soir, vous avez choisi de nous parler de la guerre et de la violence politique. Alors on a vu récemment, lors du dernier conflit entre Israël et le Hamas, comment se défendre contre 4000 tirs de roquettes sur des populations civiles israéliennes étaient perçus comme une agression. Quelle est la légalité de la guerre de légitime défense ?
C'est une vraie question et souvent les gens ignorent qu'en fait, il s'est prévu dans la Charte des Nations Unies, pourtant la Charte des Nations Unies cherche à promouvoir la paix parmi les nations et c'est une bonne chose. Et dans la Charte des Nations Unies, il est d'ailleurs explicitement interdit pour un État d'employer la force, sauf, et il y a une exception, elle est importante, dans le cas de l'article 51 de cette charte qui stipule que le droit légitime de défense individuelle ou collective peut être exercé dans le cas d'une agression armée contre un membre de l'Organisation des Nations Unies. Israël est bien un État membre de l'Organisation des Nations Unies, et ce depuis sa création en 1948. Et donc, quand Israël a reçu en l'espace de 10 jours, comme vous l'avez rappelé, plus de 4600 missiles tirés depuis la bande de Gaza par les mouvements terroristes, le Hamas et le djihad islamique, Israël avait donc un droit de légitime défense absolu et le droit de riposter en utilisant la force légitime de ses armes. Et c'est donc il est important de rappeler que la violence, puisque le sujet d'aujourd'hui de notre discussion est la violence, il peut y avoir une violence légitime de l'État, et en l'occurrence dans le cas d'Israël et du Hamas, il y avait un droit de légitime défense reconnu en droit international qu'Israël a exercé.
Alors, vous vouliez rendre également hommage à un héros mort au combat justement pour la légitime défense de la France il y a 81 ans à ce jour.
Oui, il y avait une autre époque où il était légitime de prendre les armes et prendre les armes pour s'opposer à l'impérialisme nazi en Europe. Et c'était donc l'année 39-40. Et je voudrais revenir au 9 juin 1940 et pour une fois évoquer un sujet un peu personnel, puisque je voulais rendre hommage aujourd'hui, le 9 juin 2021, soit 81 ans jour pour jour après, au lieutenant Pierre Hellebron, qui était mon grand-oncle, le frère aîné de mon grand-père, qui fut tué au combat à la tête de son groupe franc en défendant la Seine au pont des Anglis. Lui, il a exercé son droit à la légitime défense, à la violence des armes, pour défendre par deux fois sa patrie. Parce que Pierre Hellebron avait tout d'abord été un des héros français de la Première Guerre mondiale et un de ses jeunes officiers les plus décorés. La guerre avait commencé quand il avait 18 ans, elle avait fini quand il avait 23 ans. Il y fut 3 fois blessé, reprit le combat à chaque fois avant sa guérison, reçut la Croix de guerre avec 6 citations et la Légion d'honneur en 1918 à l'âge de 23 ans. Dans l'entre-deux-guerres, il est le cofondateur des Nouvelles littéraires et fut un des meilleurs amis de Drieu La Rochelle, mais quand Drieu n'était pas encore un militant antisémite. Et d'ailleurs, il se brouillera avec lui quand celui-ci écrira son premier livre antisémite en 1938, Gilles. À partir de 1935, Pierre Hellebron se mobilisa contre le nazisme dès 1935 et accueillit dans notre ferme familiale de Seine-et-Marne, qu'il dirigeait, des juifs allemands ayant fui le nazisme. Il le fit à la demande de Robert de Rothschild dans le cadre du groupement de la rue du Cirque. Il les fit travailler comme ouvriers agricoles pour leur apprendre l'agriculture en vue d'une immigration palestine. La plupart d'entre eux s'engagèrent dans les bataillons de marche de la Légion étrangère en 1939. Eux aussi eurent recours à la violence légitime. En 1939, justement, Pierre Hellebron, à 44 ans, malgré son âge, s'engage en septembre 39. Il prend le commandement du 2e groupe franc de cavalerie motorisée et il est tué le 9 juin 40, donc 81 ans aujourd'hui. Il est décoré à nouveau de la Croix de guerre et il est proposé pour être promu comme officier de la Légion d'honneur, avec une citation très héroïque. Mais cette promotion au grade d'officier de la Légion d'honneur ne rentra jamais en vigueur, car par l'application du statut des Juifs du 3 octobre 40 et une hiérarchie militaire oublieuse, l'en empêcha. Et je voudrais aussi rappeler que le 7 mars 44, 4 ans plus tard, son père Ernest Hellebron, âgé de 77 ans, et sa mère Claire Hellebron, âgée de 72 ans, et sa sœur Marcelle Hellebron, épouse chevalier, infirmière décorée de la Croix de guerre, furent tous les trois déportés à Auschwitz, où ils furent gazés dès leur arrivée. Donc je voulais, en ce jour, où on parle de violence, parler de la violence légitime, qui est la défense de la patrie, la défense de la nation, où se sont illustrés beaucoup de membres de ma famille, dont le lieutenant Pierre Hellebron, mort pour la France il y a tout juste 81 ans.
Alors ça c'était pour la violence légitime, et puis il y a la violence politique, et cette fois son illégitimité, Et le risque qu'elle représente. Alors, la fascination pour la violence politique, elle est très présente chez Jean-Luc Mélenchon, par exemple, et on a vu ses toutes dernières déclarations. Comment on l'explique ?
C'est en fait une question compliquée, et en fait, je pense que ça vient de très très loin chez lui. Comme on en a débattu, l'État se caractérise par le monopole de la violence légitime. Mais par contre, il y a de la violence illégitime, et notamment en politique, et il y a cet exemple de Jean-Luc Mélenchon. Et en fait, Jean-Luc Mélenchon n'en est pas à son premier dérapage, et ça vient de très loin. Je me rappelle que déjà, à l'été 2014, après des manifestations très violentes, vous vous en rappelez, qui avaient émaillé déjà un conflit entre Israël et le Hamas, des manifestations antisémites à Paris, où il y avait eu des attaques contre des magasins juifs, contre des juifs, et aussi des attaques contre les synagogues à Paris et à Sarcelles, au cri de mort aux juifs, Jean-Luc Mélenchon avait légitimé cette violence illégitime. Il avait tout d'abord relativisé en disant « oui, ces incidents ne sont le fait de quelques énergumènes ». Et puis il a affirmé que tous les manifestants anti-israéliens qui étaient présents ont su se tenir dignes, je cite, « ont su se tenir dignes et incarner mieux que personne les valeurs fondatrices de la République française ». Et il expliquait ce que c'était ces valeurs. « Ces valeurs sont que nous sommes toujours du côté du faible et de l'humilié, parce que nos valeurs, c'est liberté, égalité et fraternité. Pas la paix aux uns, la guerre aux autres. Nous ne croyons pas à un peuple supérieur aux autres. » Et en ne croyant pas au peuple supérieur aux autres, il fait une attaque violente, justement, contre les Juifs. Il continue, d'ailleurs, dans la même déclaration du 26 août 2014, il s'attaque là au CRIF. « Nous n'avons peur de personne. N'essayez pas de nous faire baisser les yeux. Peine perdue. Je voudrais dire au CRIF que cela commence à bien faire, les balayages avec le rayon paralysant qui consiste à traiter tout le monde antisémite dès qu'on a l'audace de critiquer l'action d'un gouvernement. C'est insupportable, nous en avons assez. La République, c'est la contraire des communautés agressives qui font la leçon au reste du pays. » Et il s'adressait à nous, une communauté agressive, qui pleuront 12 juifs assassinés parce que juifs, qui pleuront 50% des actes racistes en France sont destinés aux juifs. Eh bien ça, non, aux yeux de Jean-Luc Mélenchon, ça ne passe pas. Et on l'a encore vu dimanche dans sa déclaration, il oublie totalement l'horreur de l'assassinat islamiste à l'école de Zahra Torah à Toulouse, le 19 mars 2012. Pour lui, c'est un incident, c'est même un grave incident. Mais c'était pour cacher une logique complotiste. Alors pourquoi tout cela, pour revenir à votre question, Pierre ? En fait, il ne faut pas oublier que Jean-Luc Mélenchon a été formé pendant près de 10 ans à l'Organisation communiste internationale. Sa première formation politique, de 1968 à 1977, c'était auprès de Pierre Lambert. On les appelait les Lambertistes. Mais qui était Pierre Lambert ? Pierre Lambert était un idéologue de la violence, qui avait créé la 4e internationale, qui était pour la collaboration, et qui, par exemple, le 22 juin 1944, 16 jours après le débarquement de Normandie, écrivait « En réalité, la libération de Roosevelt vaut tout autant que le socialisme d'Hitler ». Donc, il mettait sous le même plan Roosevelt et Hitler. Et aux obsèques de Pierre Lambert, Jean-Luc Mélenchon, en 2008, donc, 20 ans, 30 ans après avoir quitté ce parti, ce groupuscule trotskiste, dit « Moi, je n'ai pas honte de ces années de ma vie. Et puis nous, les trotskistes, on a quand même lutté contre le stalinisme, le maoïsme et toutes ces horreurs. Et nous, on n'a assassiné personne. » Il a oublié quand même que Trotsky était quand même le chef de l'armée rouge et qu'il a assassiné des millions de personnes. Et pour bien définir ce qu'est Mélenchon et ses dérives, j'aimerais citer aussi quelqu'un qui connaît bien tous ces trotskistes, Daniel Cohn-Bendit, qui en mars 2014, à propos de Mélenchon et de l'OCI, les Lambertistes, a déclaré la chose suivante. « Je dirais une chose, une fois trotskiste, toujours trotskiste. Vous savez, il faisait partie de la secte la plus débile, l'OCI. Lui, il n'a pas changé, il est resté dans la même structure mentale et en plus, il est très désagréable. » Ça, on l'a remarqué. Et Daniel Cohn-Bendit rajoute, « Il est scotché dans les années 30, Mélenchon au pouvoir, il mettrait tous les ceux qui s'opposent à lui en tôle, tous ceux qui manifestent, tous ceux qui disent résistance. »
Alors, la violence physique contre les personnes et contre la personne du président de la République et les appels à cette violence en Israël contre le futur Premier ministre et même certains députés israéliens et leurs familles. On a vu aussi ces images de Twitter du président de la République se faire gifler par un individu. Quels sont les risques, les conséquences et les origines de cette violence politique en France, mais aussi en Israël ?
Il y a des idéologues, généralement d'extrême gauche d'ailleurs, comme Georges Sorel, qui ont conceptualisé ce principe de la violence politique. En fait, la violence politique, c'est aussi ce qui permet généralement aux mouvements antidémocratiques d'accéder au pouvoir. On l'a vu dans l'Italie fasciste des années 20, c'est comme ça que Mussolini a pris le pouvoir. Il faut rappeler que Mussolini, c'était un ancien socialiste. On l'a vu par la manière dans laquelle Hitler a pris le pouvoir en Allemagne en 1933. On l'a vu aussi comment Staline a renforcé le pouvoir bolchevique après la mort de Lénine. La violence politique est un moyen d'arriver au pouvoir ou de garder le pouvoir. Et ce qui est intéressant dans la gifle au président de la République, qui était un acte au-delà de l'atteinte à la personne physique et qu'il faut évidemment condamner, mais c'est un acte aussi au symbole républicain de la nation. Et frapper la personne du président, c'est un peu comme on frappe un symbole. On essaye d'abattre la République. Et d'ailleurs, ce n'est pas innocent, vous l'avez sûrement vu, Pierre, que l'agresseur est un royaliste et qui a créé Montjoie-Saint-Denis, qui était le cri de le ralliement de la royauté. Et donc, c'est une remise aussi en question de la République. Et on a déjà eu ça dans notre histoire de France, justement les années 1890 qui ont précédé l'affaire Dreyfus et qui étaient très menaçants pour la République, le boulangisme, c'était cette violence politique. Donc, il y a la violence politique d'extrême droite, qui est très bien représentée d'ailleurs par le Front National, et que le Front National représente une vraie menace de ce côté-là, mais il y a aussi, comme on vient de le voir avec Jean-Luc Mélenchon, cette menace d'extrême-gauche. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que le militant qui a frappé le président de la République est à la fois quelqu'un de royalisme et quelqu'un qui a aussi fait partie des Gilets jaunes, qui était donc plutôt une rébellion d'extrême-gauche. Donc il y a une confusion des genres, et ce qui est inquiétant en France, c'est qu'il y a 25% des Français qui sont prêts à voter Marine Le Pen, 13% qui sont prêts à voter Mélenchon, donc en additionnant les deux, plus tous les petits groupuscules d'extrême droite et d'extrême gauche, on est à 40-45% des Français qui sont prêts à voter pour des partis qui se réclament de la violence politique par idéologie, et donc c'est une vraie menace pour la démocratie. Et pour revenir à votre deuxième aspect de votre question, ça rejoint aussi un peu ce qu'on voit épouvanté, ce qui se passe en Israël. En Israël, il y a eu 4 élections législatives que vous avez très bien couvertes sur Radio Shalom, qui ont été très disputées. On arrive maintenant à une formation d'un gouvernement de coalition dans les règles démocratiques, avec des négociations, des échanges, des partages. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des manifestations devant le domicile de Naftali Bennett, qui est traité de gauchiste, qu'on déguise d'un keffier palestinien, comme on avait déguisé Rabin d'un keffier palestinien. On se rappelle qu'avec Rabin, ça avait fini par l'assassinat par un extrémiste juif du premier ministre d'Israël. Et donc, il faut se rappeler toujours que l'appel à la violence politique n'est pas neutre. Et quand elle vient de citoyens, elle est dangereuse. Quand elle vient de chefs de partis politiques, comme Mélenchon en France et par certains côtés Netanyahou en Israël, c'est grave, parce que c'est ce qui, quand même, trace la voie à un renversement de nos démocraties, et donc il faut être vigilant. Et pour conclure, je voudrais dire qu'il faut garder la violence légitime, qui est celle de l'État, de la force, qui défend ses citoyens à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais par contre, il faut condamner très très fermement tous les appels qui viennent de la gauche, de la droite, en France de l'extrême gauche et de l'extrême droite, et en Israël de certains partis politiques, dont le Likoud en ce moment et les orthodoxes, pour dire non à la violence politique, oui à la démocratie.
François Heilbronn, professeur associé à Sciences Po, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Bonsoir.
Merci Pierre, bonsoir.